Le commentaire politique de Patrick Clown.
Patrick Clown, bonjour.
Bonne semaine.
Ouais, sous lundi, la neige qui tombe.
Il va faire quoi? 11? J'ai-tu entendu ouais, ça?
Demain.
Écoute, je vais ouvrir ma piscine au mois d'avril, quoi.
Ben oui, pourquoi pas?
Car... Hein?
On va pelleter dessus, on va sur le loup.
Oui, oui, je suis sûr que ma douce est à la maison et elle hoche de la tête pour dire oui.
Ouais, quelle affaire quand même, hein?
Oui.
Drôle de saison.
Le pas beaucoup de neige.
Les érables coulent depuis quelques semaines, semble-t-il, à plusieurs
alors,
endroits.
Si ça coule longtemps, des fois, ça vient chaud tout d'un coup, puis ça coule
ouais,
quelques jours.
Si on n'est pas prêt à les faire bouillir aussi, il faut réserver du temps. Hein? Quand on a une cabane à sucre, tu dis ah, pas déjà, puis là, ben, on perd l'eau qui coule parce que on n'a pas su s'en occuper. Sacré problème de
j'ai
plus en plus.
Vu Véro Lalande, qui était une collègue à nous oui, récemment à ce micro, qui avait là, dis-moi, elle disait que la cabane à sucre était partie.
C'est familial en ce qui la concerne, je pense.
Alors, on voyait la vapeur s'échapper oui, du toit.
On
alors...
a commencé à bouillir, c'est ça qu'on oui, dit, hein, ceux et celles qui ont des cabanes à sucre. On s'en va dans du plus triste aussi, évidemment, oui, ces deux ans de conflit qui oppose l'URSS, le gouvernement russe, devrait-on dire, le régime russe à l'Ukraine. M. Trudeau qui est là-bas, on parle de dons, on parle de soutien, on parle de PIB.
Mais écoute, d'une part, vendredi, j'avais remarqué que l'avion de M. Trudeau était en Europe. J'ai dit, tiens, donc j'ai envoyé une capture d'écran et...
T'as remarqué pourquoi?
Oui, une fois de temps en temps, je vérifie où sont les avions militaires canadiens. Puis là, je venais de voir que l'avion de Trudeau, le 33-002, était en Europe. Donc, j'ai envoyé la capture d'écran à des amis pour dire que Justin fera une visite surprise en Ukraine pour ce week-end. Et j'ai des amis qui m'ont répliqué dimanche. J'ai dit, à chaque fois que je vois les nouvelles, je pense à toi parce que j'avais anticipé le compte. Okay. Écoute, là, le Canada a des grandes questions à voir à sa participation autant envers l'OTAN qu'envers l'Ukraine. Et ça va avoir des impacts, je pense, nationaux. Ce week-end, dans les émissions télé du dimanche, l'ambassadeur américain à l'OTAN et l'ambassadeur américain au Canada ont tous les deux dénoncé le Canada poliment, on s'entend, de façon diplomatique, que le monde regarde le Canada à savoir que vont-ils faire pour aller rejoindre cet objectif de 2 % du
là,
PIB.
Là, on est à combien? 1,3. OK.
Alors, M. Trudeau est cité ce matin à dire qu'on est 7e à l'OTAN, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on est 25 sur 30 au niveau du 1,3.
C'est la façon de le compter, c'est le soutien, c'est l'armement, c'est comme... Mais si c'est on compte tout. Juste armement, c'est quoi? Comment on compte ça d'abord?
Bien, en fait, il y a plusieurs choses. C'est justement, par le passé, le gouvernement canadien a commencé de dire, oui, on investit dans certaines choses, mais essentiellement, l'OTAN a dit, oui, c'est d'autres choses, mais ça ne te compte pas... le 2 % du PIB. Puis, un des points...
L'OTAN voudrait que ce soit en armes.
En investissement carrément sur nos forces armées, là. Okay. On parle... Et ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Trudeau a fait la danse de fantaisie, en tentant d'expliquer comment ça se fait que le Canada, simplement dans la production d'obus pour l'artillerie. Le Canada produit des obus de 155 mm, jusqu'à récemment, 3 000 par mois. Pour donner une référence, en Ukraine, ils en tirent, du côté de l'Ukraine, 5 à 7 000 par jour et les Russes, plus de 10 000 par jour. Alors, quand on fait 3 000 par mois,
ouais,
ça ne va pas, là. Et le gouvernement canadien se fait pousser dans le dos pour en produire plus localement. Alors, il y a deux compagnies canadiennes qui font des obus. Puis les obus qu'on fait présentement sont des obus de, comment on peut les qualifier, d'entraînement. C'est la version M107, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une nouvelle version qui est F795 qui est beaucoup plus, va aller plus loin et plus précis. Le cercle d'attaque est plus vaste. Donc, plus efficace ouais, sur le champ de bataille. Et pour changer les lignes de production, ça coûterait la première quand il y a deux ans, le conflit a commencé, les évaluations étaient à 200 millions de dollars pour revoir la ligne de production. Merci. Et maintenant, on est rendu à 400 millions de dollars. Le Canada n'est pas prêt à donner ces contrats-là. Ils sont même allés, ce que Radio-Canada International disait sur son site, le Canada est même allé voir les États-Unis pour dire on est-tu vraiment obligé de faire ça?
En pleurant comme ça?
Ben, essentiellement parce qu'ils ne voulaient pas investir. Puis ouais. Les Américains disent, parce que leur peur, c'est de ne pas être capable d'écouler la production plus tard.
Oui, mais c'est-tu vraiment un investissement? C'est une dépense, là.
Ben, c'est une dépense, ouais. C'est un investissement, mais pense-y. Le Canada, jusqu'à maintenant, a envoyé 40 000 obus en Ukraine, 20 de ses stocks, et 20, oublie pas, on en produit 3 000 par mois. 20 de ses stocks et 20 qu'ils ont achetés aux Américains. Alors, puis là, c'est là où je trouve ça fort intéressant, la Tchéquie. Le premier ministre là-bas est un ancien général. Puis lui sait que... Tu sais, je peux être méchant de dire que c'est un général puis pas un assistant professeur de théâtre, mais lui...
ce que tu dis.
Oui, t'as raison, tu fais partie. Non, tu étais un professeur de théâtre, t'es pas un assistant. mais eux, en Tchéquie, ils ont trouvé une façon d'aller chercher 500 000 obus de la Corée. En fait, ils n'ont pas officiellement annoncé, mais il semblerait que c'est la Corée. 500 000 obus 155 mm et 300 000 obus 152 mm et le 152 mm est le standard soviétique et non pas le standard OTAN. Okay. Et pour aller... Puis là, le Canada a décidé, au lieu d'investir 200 ou 400 millions à modifier les chaînes de production ici au Canada, d'aider à acheter, à contribuer au fonds.
On s'est posé la question, puis on a dit comment on peut aider le plus rapidement possible, autrement qu'en investissant dans nos infrastructures.
Mais oui, mais en même temps... Il faut être clair là, que c'est pas demain matin qu'on va être capable de renflouer les stocks qui existaient avant la guerre qui a commencé en Ukraine. Puis au lendemain de la
guerre... Mais ils sont pas les seuls à hésiter à dire... mettre autant d'argent, comment on peut soutenir autrement?
Les Européens...
J'entendais récemment.
La communauté européenne voulait offrir 1 million d'obus, puis elles ont juste livré le tiers.
Voilà.
Alors, eux sont en retard. Les Américains augmentent leur cadence de production.
La Pologne, c'est 3 fois le PIB qui investissent, là, actuellement.
Tout à fait. L'Estonie, qui est aux portes. T'sais. Alors, le Canada le commandement à Lettonie d'un bataillon de l'OTAN. Et ils n'avaient pas les défenses aériennes. Ils avaient pas. Il manquait beaucoup d'équipements. Les chars et les systèmes d'artillerie, le M777, que le Canada a envoyé en Ukraine, ils les ont pas remplacés. Tu sais, on a vraiment un retard important. Puis on voit Justin tenter de parler. On est toujours là pour appuyer. On travaille fort, mais à la fin de la journée, les décisions sont juste pas là. Et le Canada, quand tu commences à faire maintenant, l'ambassadeur américain disait que le Canada, je veux dire en anglais, is an outlier, est une aberration au sein de l'OTAN. Quand tu commences à te faire sonner comme ça en termes diplomatiques sur la scène internationale, oublie pas, le Canada a refusé de prendre le commandement du bataillon pour aller en Haïti. À la demande express des Américains, puis on dit non.
Alors,
mais si tu ajoutes tout ça, le Canada a vraiment une moins bonne image. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on travaille fort à parler, mais on travaille pas fort.
Toi, si t'étais premier ministre, tu t'enverrais les sommes demandées, le 2% du PIB?
Je pense qu'on doit grimper là. Sans poser de questions. Il faut augmenter la cadence, clairement. Je sais que c'est 16 milliards de plus par année. Présentement, le Canada, le déficit augmente d'une façon importante. Le gouvernement Trudeau a des grandes questions.
On est allé former des soldats. On s'est déplacé. On a fait l'avocat du diable.
Non, t'as raison. Tout ce qui est...
On a formé
40 000 soldats ukrainiens. Avant en Ukraine, maintenant en Pologne. Les Britanniques en ont formé grandement chez eux, avec l'aide des formateurs canadiens aussi. Mais je crois que l'Ukraine est vraiment le théâtre principal pour ralentir les ardeurs de la Russie. Puis s'ils passent l'Ukraine, ben après ça,
ouais,
là, on a le nez dedans, là.
Ouais.
Et c'est là où Je crois que le Canada...
Il est peut-être le temps de... C'est là qu'il faut que ça arrête, cette espèce de volonté que démontre la Russie à vouloir... En fait, le gouvernement russe, le régime russe... Là, j'apprends à faire la différence entre la Russie et le régime russe actuel. Hein? Oui. C'est différent. Ben, ce régime-là, il faut l'arrêter.
Mais le problème, c'est qu'il y a le régime, si tu me permets, je prends ton expression, américain pourrait aussi changer avec la prochaine élection.
Et comment?
Et c'est,
ça pourrait être autre chose.
Et ça aussi peut être un impact important parce que ça pourrait dire à Poutine, oui, maintenant, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie.
Qu'on se compte la montre là-dedans.
Puis en même temps, les Chinois peuvent regarder encore de plus près Taïwan. Alors, on a vraiment des obligations internationales, puis je crois qu'il faut être présent et non pas faire du blablabla.
Bon, on s'arrête un petit peu. On parle de quoi, retour?
Trafic, allons.
On parle de quoi, retour?
Ah. En fait, j'aimerais parler du bloc. La phrase de M.
Blanchet.
Legault qui a dit Legault. Que à quoi ça sert.
Le bloc.
Le bloc. J'aimerais revenir
là-dessus. Défendre le bloc?
Oui. Non. En fait, leur présence, oui. Pas défendre le bloc, non.
Avec Charles Gaudreau.
Toujours avec Patrick Clown, on parle de politique, bien évidemment.
Oui.
Le bloc.
Ben oui.
Ça sert à quoi, le bloc, M. Legault? Un indépendantiste convaincu qui a dit ça en chambre. C'est quoi cette affaire-là?
Écoute, commençons par mettre deux choses bien claires. Tout le monde peut voter pour qui il veut, que ce soit du Parti Rhinocéros ou le Bloc québécois. Ou les. Moi, en démocratie, tu peux t'exprimer.
Oui, pis, et tu dois t'exprimer.
Et tu dois, effectivement. Puis je suis pas un grand fan de voter par Internet parce que ceux qui sont, si tu me permets, les morons qui écrivent des niaiseries à des gens, comme en politique municipale qu'on voit beaucoup présentement, je pense pas qu'ils devraient... qui devrait voter à 2 heures du matin à Bobette. Je pense qu'il devrait aller... Bon. Alors, mais ceci étant dit, en même temps, autant que les citoyens peuvent voter pour qui ils veulent, autant les candidats peuvent représenter le parti dont ils désirent. T'sais, la démocratie, je pense, c'est assez ouvert. Le Bloc est né de députés progressistes conservateurs qui, au lendemain de la défaite du Lac Meech, ont créé ce parti qui était supposé être éphémère.
Hein, c'était le beau.
Oui, oui. Puis là, on se souviendra, Clyde Wells, Sharon Carstairs.
Mais si on
revient à la formation du Bloc, c'est ces libéraux fédéraux-là qui ont tué le beau risque. Mais en même temps, la population les a appuyés, puis ils ont leur place. Puis des fois, ils sont allés à plus de 50% des députés. Ils ont même été, Lucien Bouchard était le chef de l'opposition, le chef de la loyale opposition.
Oui.
Alors, tu sais, en démocratie, je pense que ça, c'est ça. Effectivement,
on s'incline, puis c'est le même.
Et c'est ce qui irrite les Indiens, parce que nous, les Sikhs, on a la possibilité de parler d'un État indépendant ici, puis c'est ça qui crée le conflit qu'on a avec là-bas. Mais... je te dirais, allons beaucoup plus loin maintenant. Je crois que le Bloc, en tant que, comment je peux le dire, une opposition éternelle, ils prendront jamais le pouvoir.
Ils veulent pas non plus.
Je pense que ça dilue toutefois la voix des Québécois.
Tu penses?
Ben, je vais te donner deux exemples, puis voyons le cas. C'est que pour ne pas être sur les banquettes gouvernemental, quel parti ils soient, ils ne sont pas dans le caucus pour crier, revendiquer, avancer des dossiers qui, peut-être, quand tu es en opposition, c'est facile d'aller chercher la clip, d'avoir le moment, tu vas faire les nouvelles de 6 heures, mais à la fin de la journée, est-ce que tu as pu pousser le gouvernement à avancer sur un dossier? C'est pas sûr.
C'est possible.
Mais... alors, je vais te donner deux exemples récents. On a vu le caucus libéral pousser le gouvernement en Atlantique à renverser la taxe sur le carbone, sur l'huile à chauffage. C'est pas l'opposition que les conservateurs qui criaient qu'il faut couper la taxe. C'est carrément le caucus libéral de l'Atlantique qui dit, écoute, on va tout perdre nos circonscriptions. Il faut faire quelque chose pour soulager... les coûts de la vie, mais dans le cas-ci, l'huile à chauffage. Alors, c'est le caucus à l'intérieur qui était capable de bouger, faire bouger le gouvernement. À l'inverse, récemment, il y a eu une motion au Parlement sur l'aide médicale à mourir pour demander au Québec une exemption pour qu'ils puissent, que les gens en santé mentale puissent se prononcer plus tôt pour dire que quand j'aurai perdu mes l'habilité de prendre une décision éclairée, j'aimerais que ma décision soit prise maintenant. Uh-huh. Et il y a eu un vote en chambre et 8 des 9 députés conservateurs ont voté pour, les députés du Bloc ont voté pour, M. Boulris est allé à la salle de bain. Il a voté de...
NPD.
NPD, il a décidé de ne pas voter. Il était à la salle de bain. Il s'est pas voulu se prononcer là-dessus. Mais tous les députés libéraux du Québec ont voté contre. Encore là, c'est le caucus qui a décidé de suivre la volonté du parti dans ce dossier-là. Je ferai remarquer que les conservateurs ailleurs au Canada ont voté contre aussi. Mais c'est là où je pense que, tu sais, si on retourne un petit peu plus loin, qu'est-ce qui a fracturé le Parti progressiste conservateur? Ben c'est le caucus québécois qui a poussé le gouvernement Mulroney à donner l'entretien des F-18 à une compagnie de Mirabel au lieu de Bristol Aerospace à Winnipeg. Puis ça a brisé le parti et ça a créé le Reform. Mais donc, à revenir à la prémisse initiale, des fois, en ayant le Bloc, qui, oui, a soulevé des dossiers sur le scandale des commandites et d'autres dossiers importants, c'est quand même une force importante qui ne sont pas à l'intérieur du gouvernement qui, des fois, peuvent faire basculer des dossiers qui sont d'intérêt plus important pour nous.
OK, mais quand même, s'il y a une importance, oui. il y a une préoccupation de bien défendre les droits des Québécois.
Écoute, il y a même, du côté des conservateurs, à l'élection 2006-2008, moi, il y a des mauvaises langues qui vont dire que le fait qu'il y a eu le scandale sur les arts, les contributions sur les arts, faisait sourire les gens des conservateurs d'ailleurs au Canada parce que ça va réduire le caucus québécois à l'intérieur du parti. Donc, tu sais, le NPD, quand ils ont eu ce grand caucus du Québec, quand suite à l'élection 2011, ça a quand même brassé des cartes à l'intérieur du parti. Donc,
on va s'en reparler de ça.
Parce que moi, je pense qu'il faut faire attention parce que ça fait depuis quand même des années. Puis n'ayant pas des députés sur les banquettes gouvernementales, ça, dans des dossiers précis, je pense qu'on dilue notre force. Mais ils sont là.
À réflexion.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là, ils ont gagné, c'est légitime. Je ne veux surtout pas enlever leur présence en chambre.
On va réfléchir à ça, on va s'en reparler.
Bonne semaine à tous.
Ça sera un premier sujet à un moment donné, si on aura plus de temps. Merci Patrick Clou. On s'en va vers les nouvelles dans les prochaines minutes.